Bonjour et bienvenue dans Nuit Américaine, vive le cinéma, une émission de cinéma d'Aligre FM 93.1, préparée et présentée par Bernard Payen, réalisée par Luca Penture, Enrico Mastro Giovanni. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane de Moustier, réalisateur du film Morgo, en salle à partir de mercredi prochain, avec Afzia Herzi, Michel Faux, Pablo Poli, Louis Mémy, Florence Louarica. Il y a beaucoup d'acteurs dans le film, je ne les cite pas tous, mais bon, j'en ai quand même cité pas mal.
Et beaucoup de Corses méconnus que vous allez découvrir.
Voilà, c'est le cas d'ailleurs de Louis Mémy.
Ouais, Louis Mémy, c'est la première fois qu'il joue dans un long métrage. Alors lui, à la différence des autres acteurs corses du film, il veut devenir acteur. C'est pas un casting sauvage, il a fait une école de théâtre, il veut devenir acteur, mais effectivement, il n'avait jamais joué dans un long métrage. Après, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'objet d'un casting sauvage, qu'on a trouvé en faisant une sorte de plan épervier en Corse. C'est Julie Allier, la directrice de casting, qui a mené ce travail. Et il y a quand même Cédric Capietto et Jean-Noël Tabary, qui sont deux acteurs qu'on a pu voir, qui sont corses, et qui ont joué notamment dans les films de Peretti, ouais, ou dans forcément. Quelques autres films. Donc, eux avaient une expérience, et tout ça se complète très bien, très harmonieusement.
Alors, l'info du week-end, c'est que le film vient de recevoir le prix du jury à Reims Polar. Le communiqué est tombé ce matin. Stéphane, vous réalisez des films depuis la fin des années 2000. Tout d'abord des films courts, puis des films longs. Terre battue, je rappelle, hein, dans 2014. La fille au bracelet, c'était en 2019. Et même des films moyens, des moyens-métrages, comme Allons enfants en 2018, ou si on remonte encore plus loin, Les petits joueurs. Alors, je voudrais qu'on débute un peu cet entretien, cette émission, par un mot qu'on utilise souvent en écriture de scénario ou de manière générale en récit de fiction, c'est le mot « basculement », expression « moment de bascule ». Parce que c'est un mot, expression très important pour vous, pour vos films. C'est quelque chose d'assez commun, je trouve, aux trois films. Il y a toujours un moment de bascule où la vie des personnages ne sera plus jamais la même. Par exemple, la fille au bracelet, le début du film, celle d'un temps heureux pour une famille qui ne le sera plus jamais ensuite. Où l'équilibre est rompu. Dans Terre battue aussi, il y a ce moment de bascule. Et puis celui-ci, Borgo, où à un moment de sa vie, ce personnage de gardien de prison, qui est le personnage principal, bascule dans une autre dimension. On va y revenir. Est-ce que pour vous, il y a eu un moment de bascule, de passage au cinéma, parce que il faut rappeler, parce que nos éditeurs ne savent peut-être pas, mais vous avez été plusieurs fois champion de ligue de tennis, vous avez même fait une demi-finale de championnat de France quand vous aviez 12 ans, et puis vous avez arrêté d'un coup, vous êtes passé, enfin en tout cas le cinéma est rentré petit à petit progressivement dans votre vie, ouais. Mais est-ce qu'il y a eu du coup un moment de bascule qui vous a fait aussi rentrer et vous diriger vers le cinéma?
Ouais, il y a un double moment de bascule, mais qui est très clair. Je pense que je suis devenu cinéphile. Je me suis mis à faire des films parce que j'étais cinéphile. Et je suis devenu cinéphile avec un film. Le moment est très précis, c'était L'humanité de Bruno Dumont. J'étais étudiant et j'avais accompagné les étudiants qui s'occupaient de l'association de cinéma à Cannes. Donc je l'ai vu à Cannes, dans la grande salle, sans trop savoir ce que je faisais là. Et ça a été un choc. Alors ça a été un souvenir. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'était un moment qui n'était pas forcément heureux, c'est-à-dire que je trouvais que le film était dur, mais je trouvais que le film était parfois dérangeant. Et le film m'a poursuivi des jours et des jours. Et là, j'ai pris conscience que le cinéma pouvait faire ça. Je savais qu'en littérature, on a des œuvres qui peuvent nous habiter, etc. Mais j'ignorais qu'on pouvait aussi vivre ça avec le cinéma. Et là, ça a été pour moi une révélation. Et à partir de là, je suis devenu cinéphile. J'ai regardé d'abord les films de Dumont, ceux qu'il avait fait avant. À l'époque, il était encore au début de sa carrière. Et puis j'ai regardé des tonnes de films en m'intéressant vraiment aux auteurs et en me disant une œuvre de cinéma peut avoir cette puissance-là. Et après, alors que je n'étais que cinéphile et que j'organisais ma vie pour voir des films, j'ai fait des métiers qui me permettaient de voir des films. J'étais loueur de vidéocassettes, j'étais veilleur de nuit pour lire et voir des films, en gros. C'était comme ça que j'organisais mon temps, comme si le temps était extensible la vie pouvait suffire à ça. Et quand à un moment j'ai travaillé au ministère de la Culture, à la direction de l'architecture, j'écrivais un peu des discours, j'avais fait Sciences Po, donc on m'avait donné, j'étais une petite main, j'écrivais des bouts de discours, hein, très modestement. Mais là, j'avais une chef qui était elle architecte, qui travaillait à la direction de l'architecture, et je voyais qu'elle était habitée par l'architecture, habitée par son travail au service des architectes. Et je me suis dit, c'est magnifique. Et là, ça m'a donné envie de moi de travailler dans le cinéma. Je me suis dit, j'ai organisé mes journées pour aller au cinéma tous les jours, pour faire idéalement deux séances le soir, etc. Et je me suis dit, si je peux toute la journée naviguer dans ce qu'est le cinéma, ce serait merveilleux. Donc j'ai commencé, compte tenu de là d'où je venais, par faire des métiers périphériques du cinéma. Et puis petit à petit, je suis venu à la mise en scène en faisant des courts-métrages.
Et comment ça a été du coup une manière d'apprendre tout seul, en écrivant et en...
J'ai appris, moi, vraiment, je pense, en faisant des courts-métrages. C'est-à-dire que les courts-métrages, ça a été mon école. J'ai monté une structure de production avec deux amis, Benoît Martin et Guillaume Braque, Et au début, chacun, on avait tous des envies de réaliser, on était tous capables de produire. Donc, capables de produire, en tout cas, on se sentait capable d'organiser un tournage, on va dire, parce que ce n'était que des courts-métrages. Et donc, on changeait de poste selon le projet des uns ou des autres. Et ça a été un apprentissage. Et après, je fais mon premier court-métrage pour voir, sans savoir que je vais en faire, que je vais continuer. Mais en faisant mon premier court-métrage, là, il y a comme une révélation. Je me dis que l'expérience du tournage est tellement intense que je retrouve l'intensité que j'avais éprouvée qu'avec le tennis quand j'étais tout jeune. Et c'est l'intensité après laquelle je courais un peu tout le temps, je crois. Et qui est quand même... Qui fait la singularité de ce moment du tournage. C'est quand même assez exceptionnel. Le temps est très concentré, le moment est vraiment un moment habité et qu'on doit habiter soi-même en tant que réalisateur. Donc voilà, j'adore ça et je me dis à la fin du premier tournage de court-métrage que j'ai envie d'en refaire un autre. Et puis j'en ai fait plusieurs et après voilà, l'appétit vient en mangeant, les désirs se confirment, les vocations aussi et puis on chemine.
Vous vous souvenez du premier jour de tournage sur un plateau pour votre premier court-métrage ?
Je me souviens surtout du premier jour de tournage de mon premier long-métrage, Terre battue, où je pense que je vis tout ce qu'il faut fuir. Terre battue, c'était mon premier long-métrage. Je l'ai fait, je ne regrette absolument pas l'avoir fait, et je devais faire ça comme premier film. C'est un film dans lequel, en plus, il y a du tennis, etc. Et pour, en raison de l'enfance que j'ai eue, etc., il fallait que ce soit ça, mon premier film. Mais dans la manière dont j'ai fait le film, je pense que je suis tombé dans plein d'écueils. Et dès le premier jour de tournage, j'ai senti une lourdeur sur le plateau. J'ai senti... je n'ai fait qu'exécuter, qu'appliquer un programme, que filmer un scénario en quelque sorte. Et dès le premier jour de tournage, il y avait une chape de plomb qui était là sur le plateau. Puis je tournais en pellicule. Il y avait d'un seul coup des acteurs de renom. Il y avait Valérie Bruni pour le premier jour. J'étais très impressionné. Et en fait, au lieu de prendre tout ça avec joie, au lieu de rester mobile, de rester créatif, ça m'a complètement pétrifié. Il y avait des camions. J'avais toujours fait des courts-métrages en veillant à ce qu'on soit le plus souple possible avec des équipes les plus réduites possibles pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir s'adapter. Et là, non. On m'a dit, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et je l'ai j'ai trop écouté. C'était évidemment mon erreur à moi. J'aurais dû, d'un revers de main, refuser que les choses ne se passent pas comme je les avais toujours faites, en fait. Qu'on fasse un court ou un long, finalement, on fait du cinéma. Et là, non, j'ai fait comme prétendument il fallait faire. Et en réalité, il y avait un truc mortifère sur ce plateau.
C'était qui le on, on m'a dit.
C'est dès que vous... Dès l'écriture, vous avez des retours des chaînes, vous avez des retours des financiers. Enfin, quand vous faites un court-métrage, finalement, moi en plus, je les autoproduisais, mes court-métrages, donc je ne me parlais qu'à moi-même ou aux gars avec lesquels j'avais la société de production, qui étaient mes amis, en fait. Quand vous faites un long-métrage, j'étais produit par une société de production, donc on a d'autres interlocuteurs, et puis il y a des financiers. Il y a beaucoup de gens qui deviennent partie prenante. Alors d'avoir plusieurs financiers, c'est pas mal, parce que ça veut dire plusieurs tutelles et pas de tutelles. En fait, vous êtes très très libre quand vous faites du cinéma. Mais encore faut-il se le dire, moi j'avais tendance à trop prendre au pied de la lettre ce que ces financiers pouvaient me dire. J'avais tendance à être trop appliqué, trop bon élève, trop sage. Mais ça, je pense que ça faisait partie de mon chemin et c'est une histoire de maturité que j'avais pas encore. Mais le système a permis de refaire des films derrière et tant mieux parce que quand même Terre battue, il est en partie bien raté et pour toutes ces raisons-là. Donc le on, c'est les financiers, c'est un peu le producteur que j'accable absolument pas mais avec lequel on ne s'est pas totalement rencontré et puis le on, c'est moi aussi qui est probablement surinterprété des choses et les erreurs, je les ai faites toutes seules et je peux m'en prendre qu'à moi-même.
Alors c'est vrai que depuis deux films, vous avez trouvé, c'est toujours important, on n'en parle jamais, une stabilité avec un producteur, Jean Desforêts, qui produit le film Borgo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière, ce qui est un peu commun à ces trois films, c'est de vraiment de partir à chaque fois du réel pour le transcender, pour faire amener progressivement du romanesque. C'est dans les trois films, c'est ça, et c'est le cas aussi pour Borgo. Mais c'est toujours important pour vous de partir du réel.
Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai jamais théorisé, mais c'est indéniable. À chaque fois, c'est le cas. À chaque fois, j'ai l'impression, ça peut être un fait divers ou des choses que j'ai pu observer. J'ai l'impression que ce réel m'autorise presque à investir la fiction et à me projeter dans l'histoire. J'ai besoin de ça. Ça agit comme un déclencheur, ce réel. Après, je pense que... moi, j'aime bien les films qui parlent du monde dans lequel on vit. Donc, je pense que ça me rassure beaucoup de me dire, tiens, on part du réel. Et je pense aussi que c'est Alain Corneau qui disait, le genre est possible en France uniquement s'il s'appuie sur une réalité sociale très précise. À la différence des films de genre, par exemple, américains, où il disait l'Amérique a créé du mythe. Donc les Américains, ils peuvent, ex nihilo, fabriquer des mondes. Ils disaient en France, non, on peut pas. Et je pense qu'il y a quand même une culture, une tradition. Et évidemment, on en fait tous partie quand on est ici. Et donc moi, j'aime bien puiser dans ce réel et à partir de là, avoir... me donner une licence poétique qui m'autorise à faire plein de choses, mais ouais, ce réel fait partie du point de départ sur lequel j'aime à m'appuyer, ouais.
Et c'est vrai que c'est souvent des faits divers qui sont à l'origine de vos films, et est-ce que ces faits divers vous tombent dessus un peu par hasard, ou est-ce que vous aimez bien justement lire la presse, vous intéresser
Non, je lis la presse, mais je suis pas en quête permanente du tout du fait divers. Là, c'était... Après, il se trouve que je vais prêter une oreille attentive à certains faits divers, mais en fait, toute la journée, on nous en raconte des faits divers, donc je ne mets pas particulièrement dans une démarche de recherche de faits divers, mais parfois, il se trouve qu'une histoire a un écho. En fait, elle a un écho avec la société, c'est pour ça souvent que le fait divers est évoqué, puis elle va avoir un écho avec soi, dans son intimité, on ne sait pas tellement pourquoi, on s'arrête sur ce fait divers-là. Et après, je vous dis, moi, le fait divers, une fois que je me lance dans l'histoire, si on prend le cas de Borgo, le fait divers, je l'oublie, je n'enquête jamais dessus. Je fais tout pour m'en éloigner, justement pour trouver l'espace qui va être le mien et dans lequel je vais pouvoir partager avec le spectateur, le futur spectateur, les questions que ce fait divers suscite en moi. C'est toujours une histoire des... Les faits divers, ils m'intéressent pour ce qu'ils ouvrent de mystérieux et d'inconnu. Et c'est ce mystère ou cet inconnu que je veux partager avec le spectateur. C'est absolument pas pour démontrer quoi que ce soit ou... voilà, c'est dans cette démarche-là.
Ça règle le monde compte. C'est une bande de Corses qu'on veut à une autre bande de Corses.
Poum, poum.
Ils continuent à s'entretuer, ça vous fera des vacances.
Je vous présente à votre nouvelle surveillante.
Bonjour.
Salut.
Salut. Au bateau.
Oh, oh Pietri, ça va ?
Ça va.
Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2 ?
Et aux Salines, ça va ?
Comment tu sais que j'habite aux Salines ?
On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Tu sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème. Bon, Maton, maintenant que je vais partir, ton voisin, il a reçu le message ou pas ?
Moi, j'ai pas de problème avec vous, vous savez.
Il comprend toujours pas, c'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, t'inquiète pas, hein. Ma Corse, c'est petit. Si on doit se croiser, on se croisera.
Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage.
Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort.
Est-ce que vous aimez votre travail ?
Parfois c'est dur, parfois je fatigue.
Et vous êtes proche de vos détenus ?
Alors c'est toi la matone ?
Oui.
Et vous voyez certains détenus en dehors du travail ?
Vous m'avez suivi ?
Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila.
Moi j'ai des enfants.
Moi, j'ai des gros problèmes.
Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète.
Voilà, c'est lui.
On tourne autour, mais on est incapable de l'identifier.
Attendez. Elle, je la connais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, vous écoutez Nuit Américaine avec Stéphane de Moustier, réalisateur de Borgo, qui sort dans les salles mercredi. C'est toujours bizarre d'écouter la bande-annonce sans les images.
Ouais, c'est toujours bizarre, mais bon, moi je suis content, j'entends mes acteurs. Après, le plus bizarre en fait dans la bande-annonce, quand je l'écoute, c'est que c'est pas du tout la musique du film qu'on entend.
Oui.
La musique du film, elle est faite par Philippe Sard, ce qui était assez plaisant à vivre. Et voilà, après, une bande-annonce, de toute façon, je pense, pour un réalisateur, c'est toujours un mauvais moment à passer. Enfin, moi, je considère que je suis pas la bonne personne pour avoir un avis sur la bande-annonce. Et sur ces questions-là, je laisse totalement la main au distributeur en considérant que chacun fait son métier.
Et on vous sollicite jamais pour...
Si, il me sollicite peu, mais en tout cas, il me présente les choses. C'est-à-dire que je pense que si je montais sur la table en disant « cette affiche est vraiment, pour moi, totalement irrecevable », je pense qu'ils en tiendraient compte, mais il faudrait vraiment que je monte sur la table. Donc en général, c'est plutôt à titre d'information qu'ils montent les choses.
Alors, Philippe Sard, je voulais juste m'arrêter là-dessus, parce que c'est, enfin, sur son nom et sur sa musique, parce que c'est très, très important. Elle apparaît en plus dès le premier plan séquence du film, la musique de Philippe Sard. Et justement, quand on parlait de transcender le réel et de passer au romanesque, elle apporte beaucoup à ce niveau-là du film.
Ouais, elle apporte beaucoup pour ça. Elle apporte aussi parce qu'elle rend les choses intemporelles. Tout à l'heure, je disais, j'aime bien les films qui parlent du monde dans lequel on vit, et c'est vrai, mais il faut que ça parle de plus que ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est une ambition. Et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose d'intemporel dans cette musique. Quelque chose de hautement romanesque aussi, de solennel. Je trouve que ça donne de la profondeur à la fois à l'histoire et au personnage. Et après, moi, je pense pas le film en pensant sa musique. J'ai pas une grande culture musicale et je pense qu'on a chacun ses portes d'entrée ou ses manières de fonctionner. Et moi, la musique est assez peu présente quand j'écris, par exemple. Et c'est seulement au moment du montage que se pose la question. Et là, l'intuition que j'avais, c'était qu'il fallait une musique qui joue pleinement sa partition. Je voulais pas des nappes, je voulais pas des trucs qu'on entend à peine ou qui créeraient uniquement un bout d'atmosphère. Non, je voulais une musique qui prenne en charge un bout de l'atmosphère du film. Et pour ça, Sard, avec ses compositions symphoniques, etc., enfin orchestrales, ça s'y prêtait très bien. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai sollicité, sans savoir si... Il travaille encore, ni s'il voudrait. Il se trouve qu'il ne travaille plus, mais qu'il est tout à fait ouvert à faire ce film, puisqu'il l'a regardé, il a dit « ça m'intéresse ». Ce que je trouve très beau, c'est que Sard, c'est un homme, évidemment, qui a la carrière qu'on connaît, qui a fait plus de 150 films, avec les plus grands, enfin en tout cas avec des très grands metteurs en scène. Et il n'avait jamais de sa vie fait de maquette. Il a 74, 75 ans, il n'avait jamais de sa vie fait de maquette. Et nous, on est dans une économie telle qu'on ne pouvait pas travailler comme il le faisait habituellement. Habituellement, ce qu'il fait, c'est qu'il compose. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais après enregistrer pendant une semaine et puis tu piocheras dans ce que j'ai composé. Sauf que nous, on ne pouvait pas faire un enregistrement orchestral d'une semaine, on ne pouvait même pas faire un enregistrement de 3 jours, on pouvait faire un enregistrement de 3 heures. Donc, il fallait faire des maquettes. C'est comme ça que tout le monde travaille aujourd'hui quasiment, je pense. Et bien, il l'a fait. Alors évidemment, il s'est fait aider pour le faire, pour l'exécution technique du truc, mais en tout cas, il avait encore, et ça, c'est assez admirable, la plasticité pour changer quand même une méthode de travail. Et même embrasser le truc en voyant les intérêts que ça pouvait présenter aussi, etc. Je trouvais ça assez admirable.
C'est une musique assez magnifique, qui renvoie aussi à un imaginaire du cinéma français, parce que voilà, Philippe Sard a composé énormément de musique.
Français, il a fait Polanski aussi. Alors évidemment, on l'associe à Sauté, et à juste titre, mais il a aussi fait quelques Polanski. Il renvoie aussi un tout petit peu donc à... Ouais, un truc français, un peu au genre avec Polanski, moi, je dirais.
Je reviens un peu à l'histoire de Borgo. Donc, c'est vraiment centré sur ce personnage de Mélissa, qui est interprété par Rafia Herzi, qui est surveillante pénitentiaire, qui s'installe en Corse, qui a 2 enfants, un mari, qui commence un nouveau départ et qui va intégrer donc cette prison spéciale, Borgo, en Corse, qui est un centre pénitentiaire. On l'a entendu par Florence Loiricaille, qui dirige ce centre, qui est un peu spécial parce que voilà, il y a cette idée que ce sont les prisonniers qui surveillent les surveillants, c'est ce qu'elle dit. Et donc il va falloir qu'elle s'intègre à tout point de vue, à la fois en Corse mais aussi dans cette prison. Et c'est ça le point de départ du film, tout en sachant que quand on voit le film, on est surpris en ayant cette histoire en tête, parce que le film ne commence pas complètement avec elle, mais avec un duo d'enquêteurs qu'on va suivre aussi en montage parallèle.
Voilà, il y a vraiment 2 régimes. D'un côté, les enquêteurs qui reviennent ponctuellement et qui avancent comme ils peuvent. Et là, c'est Michel Faux et Pablo Poli. C'est presque un binôme qui a un côté burlesque, toute proportion gardée, mais tout de même, parce que cette enquête policière ressemble pas vraiment à une enquête policière comme on les voit habituellement dans les films, mais plutôt à une enquête comme il y en a probablement dans les commissariats, avec des gens qui tâtonnent, qui font ce qu'ils peuvent et ou ce qu'ils veulent bien faire.
Et qui passent par les images aussi.
Et qui passent beaucoup par les images, parce qu'ils passent leur temps à analyser des images de vidéosurveillance qui sont plus ou moins exploitables. Et ça, évidemment, en tant que metteur en scène, ça m'intéressait parce que ça pose la question du point de vue. Qu'est-ce que c'est que ces images qui montrent tout, mais qu'est-ce qu'elles captent réellement? Est-ce qu'elles peuvent réellement embrasser la vérité? Puis est-ce qu'on a envie de ce monde où tout est filmé tout le temps? Donc absolument, eux, ils passent leur temps à analyser des images. Et en parallèle, on suit les agissements, les va-et-vient et le quotidien du personnage de Mélissa, le film dresse vraiment son portrait, qui est cette surveillante pénitentiaire qui débarque en Corse où elle occupe un nouveau poste à la prison de Borgo. Ce qui m'intéressait là, c'était de la regarder à une distance suffisante pour que le spectateur puisse lui aussi y trouver sa place. C'est-à-dire que moi, ce personnage, il m'intéresse parce qu'il est mystérieux dans son parcours. Comment, en quelques mois, elle passe d'une vie totalement ordinaire à ce qui va devenir sa vie, où elle se retrouve à frayer avec le crime organisé. Donc il y a un glissement qui s'opère pour qu'elle aille jusque là, et je voulais surtout pas faire le portrait d'un monstre. Je pense que les monstres n'existaient pas. Je voulais être ni complaisant ni la juger, mais il y a vraiment quelque chose de mystérieux sur ce glissement, et je voulais que le public et les spectateurs y aient la place pour ça. Donc il s'agissait pour moi de me mettre à la bonne distance par rapport à elle, pour qu'on puisse soit combler les vides, soit interpréter ce qu'on voit. Et je pense que selon les spectateurs, on va comprendre différemment pourquoi et pourquoi elle glisse.
On n'en finit jamais avec le mystère, c'est un peu cette idée. Parce que la fille au bracelet, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, vous déjà en tant que cinéaste, vous vous interrogez sur ce personnage. Nous aussi, évidemment, quand on sort d'un tel film, quand on sort de Borgo aussi, on s'interroge sur ces personnages encore bien longtemps après.
Ouais, alors le mystère... Oui, mais je pense que tout à l'heure, moi j'aime bien les films qui posent des questions, et je pense que s'il n'y avait pas de mystère chez ce personnage, ça ne m'aurait pas intéressé de faire le film. Et si c'était pour épuiser le mystère, j'aurais l'impression que c'est trop... Enfin, je ne me sens pas autorisé non plus à l'épuiser, je veux simplement l'explorer ce mystère et partager cette exploration avec le public. Effectivement, c'est ça que je trouve merveilleux, que je trouve merveilleux dans le cinéma ou dans l'art en général. C'est de sonder notre intimité à tous, et en fait notre intimité à tous, elle est ambiguë, elle est traversée par des mouvements contradictoires, et en faisant le portrait de cette femme, ce que je veux montrer, c'est ça, ce qui m'intéressait d'essayer de saisir, c'était ça, c'est la complexité de ce personnage qu'on a tendance à réduire à peu de choses au départ, peut-être parce qu'on est nous-mêmes prisonniers de clichés. C'est aussi un film social qui dresse le portrait d'une femme qui est sur un pénitentiaire, donc qui est une condition modeste, qui gagne qui vit dans des conditions matérielles difficiles. Et j'aime montrer... je voulais jamais la regarder de haut. Je voulais me dire que tout ce qu'elle fait, j'aurais pu le faire. Ça veut pas dire que je lui donne raison, mais je comprends ses raisons. Et je voulais aussi qu'elle ait la ressource. C'est peut-être une ressource qu'on soupçonne pas qu'elle aurait pu avoir. En fait, j'aime aussi qu'elle me surprenne. Donc quand je parle de mystère, il y a ça aussi, c'est que j'aime que les personnages puissent nous surprendre et dépasser les attendus qu'on est susceptible d'avoir.
Et elle se retrouve... prise au piège dans une mécanique aussi, il y a cette idée-là oui. Très forte, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'identifier à elle, qu'est-ce qu'on ferait à sa place dans toute cette mécanique qui fait qu'à un moment donné, bon, il y a un personnage qui est très important, qui est joué par Louis Mémy, qui est Saveriou, qui va faire, petit à petit faire le lien entre l'intérieur de la prison et l'extérieur, et qui va c'est par lui aussi qu'elle va plonger dans...
Ouais, paradoxalement, elle est presque... Et pour ça, ça m'intéressait de faire un film encore, c'est qu'elle est... Elle est presque davantage captive quand elle est en dehors de la prison que quand elle est dans la prison. Parce qu'en Corse, tout se sait, que les gens s'observent en permanence. Donc elle est observée même quand elle est chez elle. Et finalement, elle chemine plus librement et de manière plus simple quand elle est au sein de la prison. Mais ouais, je voulais montrer comment la mécanique de manipulation se met en place. Et pour ça, je me suis pas mal documenté sur comment ces manipulations se mettent en place et comment ils se mettent en place en Corse aussi, avec ses spécificités corses. Qui joue beaucoup sur la fibre affective, qui joue beaucoup sur la loyauté des uns envers les autres, qui joue... Les criminels vont avoir l'art de la rendre redevable vis-à-vis d'eux, et puisqu'ils créent une dette d'elle vis-à-vis d'eux, elle va devoir payer cette dette, et en faisant des choses qu'elle réprouve peut-être, en tout cas. Une mécanique se met en place. Je pense que cette mécanique ne suffit pas à expliquer totalement pourquoi elle glisse. Ça se double aussi d'autres questions que d'autres éléments intimes, etc., que le film montre, notamment par rapport à sa situation de famille, par rapport au fait que c'est une étrangère qui veut faire sa place dans un monde qu'elle ne connaît pas. Donc il y a tout ça qui s'accumule et qui fait qu'à un moment donné, elle part à la faute. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que les personnages secondaires ont vraiment une existence très, très riche. Je pense par exemple le personnage de son mari, qui a une véritable épaisseur dans le film, et qui en même temps nourrit le scénario, le récit. C'est difficile évidemment de tout raconter comme
sans
ça.
Révéler. Sans non, révéler. Mais c'est vrai pour le mari, c'est vrai aussi pour les Corses qu'on voit dans le film, les détenus. Il s'agissait à chaque fois de dépasser l'image d'Épinal du truc. C'est-à-dire que oui, on s'imagine que des prisonniers, ça va être des tolards avec des gueules patibulaires et des mecs qui vont être peut-être brutaux, qui vont s'imposer, qui vont faire des hommes virils, etc. Et moi, j'ai le personnage de Saveriou, qui est joué par Louis Mémy, prend totalement le contre-pied de ça. Il est apparemment angélique, il est très jeune, il y a quelque chose d'extrêmement juvénile et presque pur chez lui, et pourtant, il va aussi révéler d'autres facettes, mais ça m'intéressait de les montrer eux aussi dans leur complexité, dans leur humanité. On les voit aussi vulnérables parfois, et on voit aussi qu'ils appartiennent à un système, c'est-à-dire que ils ne sont pas totalement... Ils sont aussi des jouets d'autres forces, quoi. Et on a affaire, en fait, qu'à des subalternes aussi. Mélissa, elle répond à des injonctions, mais eux aussi répondent à des injonctions. On le voit, Saveriou, il répond à des injonctions. Ça m'intéressait de le montrer. Et tout à l'heure, je disais qu'il s'agissait ni de juger ni d'être complaisant avec le personnage de Mélissa, mais c'est valable pour les détenus. Je voulais aussi montrer la position délicate dans laquelle ils sont, et puis les montrer dans leur humanité, quoi. Après, pour le Moussa qui joue le mari donc d'Afsia dans le film, donc de personnage de Mélissa, qui est joué donc par Moussa Mansali, là c'était particulier parce que c'est un personnage, on peut le dire sans trahir le film, qui à un moment disparaît un peu du film parce qu'il disparaît des préoccupations de notre personnage principal qui est happé par autre chose. Mais il disparaît pour mieux revenir. Et c'est important que quand il revienne, il ait laissé une trace forte. Et pour ça, Moussa Mansali, c'est génial, parce que Moussa Mansali, il a un charisme. Moi, je voulais pas faire un portrait misérabiliste de ce type. J'ai dit tout à l'heure, c'est des gens de conditions modestes, etc., qui une certaine précarité professionnelle, etc. Mais pour autant, je voulais surtout pas tomber dans les écueils du misérabilisme. Et avec Moussa, qui a cette superbe, qui a cette prestance, on échappe à ça. On échappe à ça. Et en plus, moi, j'arrive très bien à me figurer qu'ils se sont aimés. C'est-à-dire que Moussa, il est solaire, il est quelque chose de... Voilà, il a énormément de charme. Donc j'arrive à croire dans ce couple qui a pu s'aimer, qui pourra peut-être s'aimer à nouveau après. Et j'avais besoin de ça pour innerver le film.
Parce qu'on parle un peu des acteurs, on peut parler évidemment de Afsia Erzi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est... Elle est une actrice ancrée dans le réel, puisqu'elle a commencé chez Kechiche, et il y a vraiment cette idée-là. Et en même temps, il y a beaucoup de romanesque en elle. Il y a presque l'idée d'une actrice somnambulique.
Complètement. Il y a cet antagonisme-là, effectivement. Elle est totalement ancrée, et pourtant aussi assez aérienne. Vous dites somnambulique, c'est tout à fait juste. Elle est quand même très très singulière. J'avais l'intuition qu'elle serait bien pour ce rôle, j'avais l'intuition qu'elle serait crédible en surveillant de pénitentiaire. C'était pas évident. En plus, je savais que devant elle aurait des détenus qui, eux, viennent du réel, donc il fallait pas que ça détonne, il fallait pas qu'on se dise, tiens, on a un acteur professionnel qui compose, qui fabrique, avec ce que ça peut avoir d'artificiel, face à des gens qui ont le réel chevillé au corps, puisqu'ils jouent des personnages très très proches d'eux, eux-mêmes. Et Afsia Erzi, elle avait ce truc de vérité. En fait, Afsia Erzi, c'est quelqu'un qui ne triche jamais. Elle est technique. C'est aussi une très très bonne actrice qui est capable. Moi, je me demandais si elle ne pouvait qu'un. Enfin, j'avais des préjugés sur elle. Je me disais, je l'ai adorée dans les films de Kechiche notamment. J'ai adoré ses propres films à elle aussi. Je sais qu'elle pratique beaucoup l'improvisation dans ces films-là notamment. Et je me demandais si elle serait à l'aise avec un texte plus écrit. Moi, il y a dans le film une dimension polar. Le film n'est pas qu'un polar, évidemment, mais en tout cas, il y a une métrique qui doit être respectée. Il y a des jalons qui sont incontournables, donc il y a un truc de précision. Et je me demandais si Afsia Erzi, elle arriverait à rentrer là-dedans. Est-ce qu'en faisant ça, j'allais pas perdre ce qui fait sa spontanéité, ce qui fait son... qu'elle est ce qu'on aime tant chez elle? Et en fait, non, pas du tout. Elle est capable totalement de se fondre dans de tenir compte de ces paramètres techniques-là, tout en gardant ce truc de vérité qu'elle a en elle.
On va marquer une pause musicale. J'aurais pu choisir évidemment Mélissa, Julien Clerc, mais je l'ai pas choisi. Enfin, les auditeurs comprendront en allant voir Borgo. Et bon, j'ai choisi quelque chose qui peut paraître cliché parce que c'est j'ai cherché. Je voulais quand même qu'on entende un peu de musique corse et de chant corse. Donc j'ai évidemment choisi Mouvrini, mais j'ai choisi un extrait du tout premier album de la fin des années 70, et puis un titre, alors je suis pas très bon en Corse, en tout cas ça s'appelle La vérité si fâché, je prononce un peu à l'italienne, mais en tout cas je trouvais que ça correspondait bien un peu au film. On va l'écouter ce titre, et puis on écoutera un extrait de Borgo juste après.
Ok.
La verità si muore al giusto tra pene e sudore che rizzano lo viado tra male e enfato tu scegli per fa correre uero e spunto travato e tanto va di errore e oggi che tu taci e quelle che tu affogli su tanti e tanti raggi che intrecciano i nodi i vati che tu acconci mette non rimeno draghe non si sconci, a Bage la Belle. Si verrà. Dritti galpigliati a luce che tu fugi so popoli ingiuliati e rimme di ustrazio per te sempre sospente ma contano di radio e sparge nusumente a verità si face all'orlo di labbra chi tomba nudace quando l'ugore s'apre si
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour, vous n'avez pas vu Andrea?
Il est derrière, regarde.
Andrea, vous avez votre rendez-vous avec le Jap?
Ouais, j'arrive.
Je suis en côté d'art, ça répète plus.
Eh mais, vous avez vu l'état de la cuisine, là? Vous allez avoir des cafards, hein?
Ouais, les cafards, ils sont en unité 4. Ils
sont con.
Si j'étais vous, je rigolerais pas, c'est insalubre ici. Bon, Andrea, vous venez ou j'annule votre job? Ça fera bonne impression.
C'est bon, j'arrive.
Ah, tu peux toujours nettoyer si tu veux.
Pardon?
Si tu trouves que c'est sale, fais quelque chose.
Je suis pas votre serviteur.
Tu es quoi alors?
Votre surveillante et arrêtez de me tutoyer.
Allez, on joue au cartes, on va te faire un giro.
Quoi?
Va conduire Andrea, ça t'occupera.
Vous appelez comment? Vous me présentez tout de suite vos excuses ou je fais un rapport?
Bon, ouais, ouais. À quoi tu joues?
On n'est plus à Paris ici, hein.
Je m'appelle Ours. Et après?
Vous nettoyez?
Hey, les gars, c'est quoi le sujet là?
Le sujet, c'est qu'elle veut qu'on nettoie.
Non, je veux rien du tout, c'est pas ma cuisine. Mais si vous nettoyez pas, ça veut dire que vous êtes incapable de vous autogérer et on finira par fermer l'office. Allez, voilà.
Tout de suite, les menaces.
Non, c'est pas des menaces, c'est des conseils.
Le ménage, on le fait le dimanche.
Mais vous voyez pas que c'est sale?
Mais qu'est-ce que tu dis? On est bien plus propre que toi, ça tu peux en être sûr.
Non, vous êtes sale. Excusez-moi, une cuisine comme ça, c'est être sale. Vous êtes trop sale.
C'est tout.
En français, reculez, reculez en français.
Les gars, la raison, vache.
Tu peux nettoyer, c'est dégueulasse.
Qui c'est qui va nettoyer?
Moi, je veux bien le faire, hein. Et si tous ceux qui servent la cuisine y s'y mettent, en 5 minutes, c'est plié.
On a écouté un premier extrait de Borgo. Stéphane de Moustier est avec nous jusqu'à midi pour Nuit américaine. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est vraiment l'aspect aussi immersif qu'il y a toujours eu dans vos films. Enfin, en tout cas, dans La fille au bracelet, c'était le cas aussi. L'idée de, on était en immersion dans un procès, en fait, dans une salle de procès. Et là, il y a vraiment cette idée d'être en tout cas dans cet extrait, en immersion dans la prison. On le ressent vraiment très, très fortement au début du film.
Ouais, elle débarque dans cette prison qu'elle connaît pas. Et donc, elle prend de plein fouet une réalité qui lui est étrangère et qui la surprend. C'est valable au sens large pour la Corse, parce qu'elle arrive en Corse, donc elle arrive en territoire inconnu. Et puis c'est valable aussi pour cette prison qui, au sein de l'administration pénitentiaire, fonctionne pas comme les autres. Donc au début, elle a la surprise de découvrir un fonctionnement qu'elle méconnaissait, qui est un peu déroutant et auquel elle va finalement se faire, et même dont elle va comprendre la logique et les avantages, parce que la prison de Borgo fonctionne pas comme les autres, mais c'est une prison où les gens font leur peine. Faut pas non plus se méprendre sur ce que c'est. Ça reste un établissement pénitentiaire à part entière, mais c'est vrai qu'il ne règne pas la même atmosphère qu'ailleurs. Il n'y a que des Corses, donc c'est une homogénéité dans la population au sein de l'unité 2 qui est sans pareil. On l'entend là, les détenus tutoient les surveillants et les appellent par leur prénom. Il y a quelques largesses qui sont prises avec la règle. À un moment, on voit dans le film qu'ils installent un ventilateur. Ça, c'est des choses documentées, totalement vraies, et j'aurais pu en mettre des kilomètres et des kilomètres. Donc il y a des largesses qui sont prises par rapport à ce qu'est normalement la règle, qui pour une surveillante qui a beaucoup de métiers comme elle et qui vient de Fleury surprend et puis elle va s'y faire.
Est-ce qu'il y a, quand on parle de prison, d'un film qui se passe en Corse, l'appréhension de ne pas être juste ?
Non, mais il y a la crainte de ne pas être juste par rapport à la Corse, et il y a la crainte d'être prisonnier de préjugés, et notamment de préjugés de cinéma aussi. Moi, ce que j'aime quand je fais un film, c'est découvrir un univers que je ne connais pas. J'avais adoré, dans La fille au bracelet, aller assister à des procès d'assises, découvrir comment les tribunaux s'organisent. Mais je m'étais aussi entouré de gens qui sont des pénalistes, qui connaissent très bien les procès, qui puissent réagir à ce que j'avais écrit, parfois me conseiller. Et si je faisais un pas de côté, me le dire. Le film-là, il n'a pas la vocation d'être un documentaire sur la prison de Borgo, absolument pas. Mais je voulais que ce soit le plus vraisemblable possible. Et puis, en fait, ça m'intéressait aussi de cette réalité. D'un seul coup, elle structure ce qui va être mon film, ce que vont être ses scènes, en tout cas. Et elle crée un cadre dans lequel je peux m'intégrer, sur lequel je peux m'appuyer. Donc par exemple, le type qui joue le surveillant dans le film, qui s'appelle Victor dans le film, c'est pas un acteur, c'est un gars qui s'appelle Jean-Étienne Frisoni, qui est réellement surveillant à Borgo, qui est là-bas depuis 20 ans, donc il connaît par cœur le fonctionnement de Borgo, et il était avec nous sur le plateau tous les jours, parce qu'il jouait son rôle, mais aussi parce qu'il pouvait tout le temps, moi, me conseiller, répondre aux questions que se posait inévitablement Assia. Donc ça apporte un truc de vérité déjà, et puis faire un film, c'est découvrir des mondes, et découvrir aussi les gens qui font partie de ces mondes. Moi, j'étais ravi de passer du temps avec ces gens-là, de comprendre quel est leur métier. Enfin, c'est captivant, et le film permet ça aussi, d'avoir un aperçu de ce que sont ces métiers ou ces réalités-là qu'on méconnaît. Et moi, en faisant un film avec des détenus, avec des mafieux qu'on voit de loin, mais qu'on devine, j'étais prisonnier de plein de clichés cinématographiques dont je me sers. Moi, j'adore les films de mafieux, effectivement, mais que je veux déjouer aussi. Je veux montrer dans le film que la réalité, elle est plus prosaïque et qu'elle est plus ambiguë, et essayer de sortir des sentiers uniquement cinématographiques, tout en faisant du cinéma.
Alors justement, les codes du cinéma, ça permet de tirer le film du côté du romanesque, de la fiction. Il y a aussi beaucoup, on en parle moins, c'est vrai, peut-être de l'aspect western. Je trouve qu'il y a une vraie dimension western dans le film, bien des égards.
Mais parce qu'elle arrive dans un territoire qui n'est pas le sien et dans lequel elle va devoir faire sa place. Elle arrive, chacun défend ses intérêts. Le fait de tourner en Corse, c'est un pays où il y a une culture, une identité, un caractère qui est très très prononcé. Donc elle arrive vraiment dans un territoire où même la langue lui échappe. Et ça, moi, je voulais m'en servir. On l'entend un peu dans l'extrait, il parle corse. Moi, je leur demandais de parler corse, je comprenais évidemment pas ce qu'ils disaient, mais ça m'intéressait que le personnage soit mis dans cette situation-là, de faire face à un monde qui n'est pas le sien, et qu'elle essaye de décrypter, de deviner. Elle a ses fantasmes, parce qu'on fantasme tous la Corse, on fantasme tous ces univers-là. Ben, le film va déjouer ces fantasmes, ou montrer une autre facette de ces univers.
Et dans l'écriture et les mises en scène, vous passez aussi par beaucoup de détails. Et j'en retiens un qui est vraiment très important, qui est la cigarette, qui fait le lien aussi entre les deux univers. Dès le départ, le personnage de Michel Faux, du commissaire, il veut fumer, quoi. Il cherche des cigarettes. Et puis, tout ça, ça a un sens très précis, parce qu'il y a une scène à un moment donné qui va faire se croiser les personnages sans qu'on... Voilà, sans, c'est pas forcément une scène qui a une... une tension dramatique dans le sens où ils vont pas pas d'interaction, mais c'est une scène très importante du film.
Ça ne va rien générer, et pourtant je trouve aussi que ça raconte bien la réalité de cette île. À un moment, le personnage de Saveriou dit « Elle est petite, l'île. Si on doit se croiser, on se croisera forcément. » Et en réalité, sur une île comme la Corse, tout le monde se croise tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a autant de porosité entre les mondes, parce qu'il y a une proximité parfois familiale, mais aussi géographique. Donc les gens se croisent, et c'est aussi pour ça peut-être qu'on peut basculer plus facilement qu'ailleurs. Et moi, ça m'amusait de jouer avec ça, donc de montrer que nos protagonistes l'ignorent, mais qu'en réalité, ils sont déjà croisés, donc je joue avec ça. Bah, la cigarette, c'est un très bel objet cinématographique. Enfin, une cigarette, c'est sensuel. Une cigarette, voilà, j'ai plaisir à filmer ça. Alors, et c'est vrai que finalement, ça réunit dans une même humanité ou dans un même geste auquel ils trouvent tous le même plaisir, à la fois les bandits et les policiers. Dans le film, je disais tout à l'heure, il y a deux régimes. Et on voit les policiers, parce qu'ils appartiennent aux institutions, eux, ils viennent du continent. Donc ils ont d'autres codes, ils ont aussi même d'autres codes de jeu dans le film. Et c'était très bien, parce qu'ils font presque partie d'une autre réalité spatio-temporelle, du fait qu'ils viennent d'ailleurs, et que donc ce monde corse en fait, leur échappe complètement. Et moi, je m'amusais beaucoup à les filmer différemment et à entretenir presque un registre de jeu différent entre eux et les autres. Mais qu'il y ait des détails comme la cigarette qui les réunit tout de même, ça m'intéresse aussi beaucoup.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On a un problème avec la fouille de ce matin, t'as rien vu d'inhabituel ?
Pourquoi tu me demandes ça ?
On a trouvé 2 pièces de revolver. Viens voir, viens voir. Ils avaient planqué le canon dans un étui à lunettes. Regarde, tu vois la carcasse, on l'a trouvée dans le transistor.
Mais là, c'est pas la carcasse, hein. Il y a tout le pistolet.
Bon, on va faire expertiser les pièces.
Ouais, je te le dis, c'est pas la peine. C'est un 1911.
C'est un quoi ?
1911, un Colt 45. C'est un modèle standard. C'était une arme militaire à l'origine.
Il est fonctionnel ?
Oui. La culasse se bloque pas très bien, mais c'est courant avec cette série.
Merci pour votre contribution précieuse. Daleb, permettez-moi de m'étonner de votre expertise dans un tel domaine.
Moi, j'ai fait beaucoup de tirs jeunes.
À quel titre ?
Sportif.
Tu tires toujours ?
Non, j'ai arrêté quand j'ai eu les enfants.
Bon, très bien, vous pouvez remonter dans votre unité, on vous transmettra très rapidement des directives.
Qu'est-ce qu'on fait ?
On met l'établissement en régime fermé. On n'a plus le choix.
Voilà un autre moment de bascule du film d'ailleurs, de ce qui se passe dans cette prison et aussi de cette rencontre entre Florence Touareka et la directrice de la prison et Afsa Erzi, une interaction qui aura des conséquences plus tard dans le film.
Ce qu'on entend là, c'est elle qui remonte une arme. Mmh. Tout à l'heure, on parlait du réel et de la documentation. Moi, j'avais rencontré plusieurs directeurs de prison quand je préparais le film. J'ai rencontré des détenus, des surveillants, mais aussi des directeurs de prison. Et chaque fois que j'ai rencontré un directeur, c'était une directrice. Donc je constatais qu'il y avait beaucoup de femmes. C'est une profession qui est très féminine, et à Borgo aussi il y a eu des femmes, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une femme, et je trouvais intéressant que le personnage de Mélissa, qui est joué par Afsia, soit pas la seule femme dans un monde d'hommes. Elle a quand même une supérieure qui se trouve être également une femme, et on va voir dans le film que la distance, le fossé qui est créé par la hiérarchie en fait, va l'emporter sur ce qui aurait pu être une proximité de genre. Toute femme qu'elle est, le personnage de Florence Touareka, il va pas venir en aide à notre protagoniste. Et là aussi, je trouvais que ça montrait bien la complexité et la place des uns et des autres et la réalité sociale dans laquelle est notre protagoniste, quoi. Tout en bas de l'échelle et vraiment réduite à cette condition.
Et la hiérarchie et une forme de pression aussi.
Ouais, et une pression qui est exercée sur elle, à la fois par les détenus, mais aussi en fait par sa hiérarchie. En fait, elle subit tout ça. Ça m'intéressait de le montrer. Et oui, alors vous dites point de bascule. Oui, c'en est un. Après, c'est tout à l'heure, on parlait aussi des clichés ou des passages obligés. Vous avez passé de la musique corse. Moi, j'ai essayé de transformer ce que peut être la musique corse dans le film avec une séquence où je joue avec un morceau de variété française. Les armes, c'est omniprésent en Corse. La culture de l'arme, elle est omniprésente. J'ai, pareil, essayé de m'emparer de ça en dépassant les simples clichés et en m'en servant pour que ça... irrigue la dramaturgie, en fait.
Et puis, il y a une phrase comme ça qui est très importante au début du film, par rapport à la scène de crime du début, qui est ce fameux tueur, en tout cas, a dit « Mais vous inquiétez pas, on tourne un film. »
Ouais, c'est pour un film.
C'est pour un film. C'est pour ça que j'ai tiré sur cet homme. Et donc, c'est une phrase très importante aussi par rapport à la réflexion qu'on peut avoir sur le cinéma dans le film aussi, à cette réflexion-là, à travers les images, à travers l'enquête du commissaire. Mais voilà, c'est aussi, puisqu'on parle depuis le début finalement de ce mélange entre réalité et fiction, bah voilà, cette phrase, elle est aussi très importante.
Le monde des gangsters, je sais pas comment l'appeler, ou le monde des criminels et le monde du cinéma sont des mondes qui s'observent et qui se fascinent réciproquement en permanence, les uns s'en réfèrent tout le temps aux autres. Je pense que les gangsters ont envie de ressembler aux affranchis, et puis les cinéastes sont fascinés par les... Tout à l'heure, vous parliez de certains faits divers où sont fascinés par les très grands gangsters, en tout cas ceux qui sont présentés comme tels. On a complètement idéalisé un mec comme Mérine, par exemple. Donc je pense qu'il y a vraiment une fascination réciproque. Et moi, je voulais pas verser là-dedans, mais je voulais me servir de ça. Et donc effectivement, ça m'amusait que le mec dise « c'est rien, c'est pour un film », et que ce soit comme ça qu'il essaye de rassurer les témoins de la scène de crime. C'est évidemment une phrase qui est glaçante, mais qui a aussi une part d'ironie, quoi.
Au début de l'émission, vous parliez du choc qu'a été l'humanité de Bruno Dumont. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre chef opérateur, David Chambi, a travaillé... tous les derniers films de Bruno Dumont étaient photographiés par lui. Donc c'est peut-être pas anodin aussi, peut-être ou un hasard, vous l'ayez pris.
J'avais fait un court-métrage avec David Chanvy bien avant qu'il travaille avec Bruno Dumont, mais effectivement.
Bon, en tout cas, tout est connecté en tout cas. Ce qui m'intéressait, c'était aussi le parti pris que vous aviez eu ensemble par rapport au film. Enfin, comment filmer la Corse, sachant que c'est intéressant aussi pour vous, venant du nord de la France, de Lille. Comment un gars du nord va filmer une île du sud?
Parmi toutes les raisons qui faisaient que j'avais envie de filmer en Corse, il y a aussi que pour moi, c'est vraiment une terre où la lumière est sans nul autre pareil. On voulait que cette lumière soit présente, et pour des raisons de production, on n'a pas pu tourner les intérieurs de la production en Corse. On n'avait pas accès à une prison en Corse, il n'était pas question de faire un studio, c'était trop cher, donc il fallait trouver une prison quelque part désaffectée qu'on puisse investir. Donc on s'est retrouvé en région parisienne, à Compiègne, pour tourner les intérieurs de la prison. Et je me souviens que tout de suite, l'énorme question qui se posait à nous, c'est comment rendre ce lieu lumineux, quoi. C'est-à-dire, évidemment, c'est une prison, mais il fallait que les entrées de lumière soient très fortes et qu'on sente ce ciel, ce soleil brûlant qu'il peut y avoir en Corse, même si on a eu beaucoup de pluie quand on a tourné en Corse. Et j'en étais ravi aussi, parce que quand je disais qu'il fallait que ce soit un peu autre chose que la carte postale, il fallait qu'on sorte aussi de cette image de plage ensoleillée. Il y a aussi autre chose en Corse. Mais même quand il fait gris, il y a de luminosité, et ça, on voulait qu'elle soit là. Après, les grands partis pris qu'on avait avec David Chambi, c'était ce qu'on a un peu parlé tout à l'heure, c'était de dire qu'il fallait trouver la bonne distance par rapport à elle, c'est-à-dire la suivre tout en laissant un peu d'espace. On a tout filmé avec un seul objectif, tout le temps, le 40 mm, ce qui est plutôt rare. Normalement, on varie les objectifs. Enfin, d'abord, je pense que c'était une contrainte qui était structurante. J'aime bien les contraintes qui vont d'un seul coup être stimulantes, en fait, artistiquement. Et puis, je voulais qu'il y ait la géographie ou la géométrie du film. Il y a la géographie du film qui est cette île, mais je voulais que aussi c'est en fait sa géométrie, et que donc on soit tout le temps dans les mêmes rapports. Je pense que ça crée une unité, personne se le dit en voyant le film, personne se le formule, mais je pense que ça participe de l'unité formelle du film, en fait. Et donc si on voit quelque chose de très très gros, c'est qu'on s'est rapproché très très fort, c'est pas qu'on a triché avec les focales, et donc c'est qu'on a accompagné le personnage qui s'est rapproché, et ça faisait partie du parti pris qu'on avait.
Est-ce que votre intérêt pour l'architecture que vous avez eu très très jeune, a influé, et notamment pour ce film, sur la mise en scène et sur notamment l'importance des lieux, qui est toujours récurrente, le choix des lieux.
Je m'en rends pas compte, on me le dit parfois, mais moi je m'en rends pas compte que c'est parce que j'aime l'architecture que j'ai filmé les choses de telle ou telle manière. C'est vrai que ça m'intéresse de filmer les lieux, ça m'intéressait de donner à ressentir cette prison. On s'était dit que dans la prison, c'est là qu'elle éprouve finalement le plus de bien-être, le personnage de Mélissa. Paradoxalement, c'est là qu'à un moment, elle va se sentir le plus libre ou le plus en phase avec elle-même et avec les autres. Donc on s'est dit, il faut que ce soit là que les plans sont les plus fluides du film. Donc c'est des plans qu'on fait au Ronin, qui sont des plans continus. C'est très peu découpé, en fait, c'est très fluide. On accompagne tout le temps son mouvement. Donc il fallait que dans cette prison, qui est cloisonné comme une prison, on est quand même en permanence une notion de mouvement et de déplacement et de fluidité, ce qui est presque paradoxal.
Je voudrais qu'on parle quand même de votre travail avec Damien Mestragi, qui est votre monteur, qui a monté vos trois longs métrages. En relation est très importante avec lui, et évidemment dans ce film qui mêle deux récits parallèles en alternance, c'est encore plus prégnant. Donc je voulais savoir un peu comment vous aviez travaillé pour cette partie-là du film? Est-ce que vous avez suivi le scénario initial, puisque cette idée formelle a été présente dès le départ, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'idée de commencer par ce premier plan séquence
dès le début, il y avait l'idée qui est, comme je l'ai dit, les deux histoires conçues en parallèle. Et donc il y avait l'idée d'ouvrir avec Michel Faux et les commissaires. En revanche, on a passé notre temps après au montage à ajuster, c'est-à-dire à se dire telle scène où il y a le commissaire et le brigadier, si on la met à tel moment, avant ou après telle autre scène, quelle résonance ça crée. Et ça, on a passé notre temps à ajuster, à chercher. Et c'est passionnant. C'est l'écriture qui se finit évidemment au montage, l'écriture qu'on a commencé au scénario, qu'on a poursuivi au tournage et qu'on parachève au montage. Donc ça, avec Damien, on l'a fait. On a monté très longtemps, alors que finalement, on a assez peu coupé et que le film est assez fidèle au scénario. Mais on a monté longtemps parce qu'on avait cette idée d'aller chercher les résonances, un peu de couture dans les rythmes. Et ça, c'était très, très plaisant à faire. Et moi, j'aime assez qu'il y a le moment d'effervescence du tournage. Et après, il y a l'intimité de la salle de montage où on peut faire des choses toutes petites, mais qui ont des effets sur le film. Et toutes petites et très précises. Pour un film comme celui-là, qui a une dimension un peu de thriller, même si ça n'est pas qu'un thriller, la précision du montage requiert du temps. Et c'est aussi ça, la richesse du cinéma, c'est le temps dont on dispose, le temps qu'on raconte à l'image, c'est-à-dire on prend la distance, je pense, avec les choses, et on les relève, mais aussi le temps dont on dispose pour faire les choses. On a besoin de temps pour arriver, je pense, à certains résultats. Et le cinéma offre pour l'instant cet espace et il faut le préserver.
Vous avez un exemple de ces petites choses qui a pu changer un peu
Là, comme ça, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple sans trop déflorer, mais...
La place de cette scène, par exemple, la scène du tabac, du bar tabac, elle était placée là ou elle a bougé?
Alors, la scène du bar tabac, c'est la fameuse scène où les protagonistes qui ne se connaissent pas se croisent. Non, elle a toujours été là. Ce qui a beaucoup bougé, c'était les scènes de commissariat. La grande question, c'était est-ce que. Moi, il y a deux temporalités différentes. C'est-à-dire que les commissaires, on va finir par comprendre qu'ils font une enquête et qu'ils sont en avance sur ce qu'on voit par ailleurs du quotidien de Mélissa. Ça, c'était un pari d'écriture. C'était de dire on va faire deux histoires en parallèle et en plus ils sont pas dans la même temporalité, puis à un moment ces deux temporalités vont se rencontrer. Et ça, moi je savais pas si ça marcherait à l'écriture, mais ça m'excitait assez. Donc on a tout de suite constaté au montage que ça allait marcher, c'était très rassurant. Mais après c'était à quel moment on révèle l'implication du personnage de Mélissa dans les images que voient les policiers. À quel moment on la montre en gros. Et en fait, on la montre très très vite, donc je peux le dire. Dès un des tout premiers plans des commissaires, on la voit. Mais beaucoup de spectateurs ne la voient pas. Et en fait, peu importe. On a constaté que selon qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, ça fait deux expériences différentes du film et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Mais on s'est beaucoup posé de questions là-dessus.
Très bien. Borgo, dans les salles, mercredi prochain. Merci. Merci beaucoup, Stéphane de Moustier.
Merci à vous.
Esta casa con ese olor animal podrido.
Les recommandations finales de Nuit Américaine, avec tout d'abord Le squelette de Madame Morales, comédie noire réunissant l'univers de Buñuel et les films fantastiques de la Hammer. C'est un film de Rogelio A. González qui fut aussi prolifique que mort prématurément dans un accident de la route à 62 ans. Le squelette de Madame Morales a un scénariste connu, Luis Alcoriza, qui a écrit notamment Los Olvidados, Elle, l'ange exterminateur, aussi un acteur qu'on connaît bien, c'est l'acteur de Elle, de Buñuel, Arturo de Cordova, et en même temps, le film s'inspire directement de la nouvelle d'un auteur gallois, écrivain horrifique, Arthur Machen. L'histoire, c'est d'un taxidermiste qui pense réussir à se débarrasser de sa femme sans éveiller les soupçons. Une histoire inspirée par un fait divers anglais, écrite par Machen et adaptée dans le Mexique des années 60. C'est un film noir, au carrefour des genres, avec un humour macabre très réjouissant, et c'est sorti par les films du Camélia, Le squelette de Madame Morales, en salle.
Por que vocês chamam aquela menina de Sem Coração, hein?
A gente sempre chamou ela assim. Parece que quando ela era mais nova, tiraram o coração dela.
Je voulais également vous signaler la sortie de Sans Cœur de Dara Normand et Tian. C'est un film brésilien coproduit par Kleber Mendoza Filho et Les Valseurs, qui est une très belle boîte de production française. Film brésilien, donc chronique de plusieurs adolescentes vivant en 1996 dans un village pêcheur du Nord-Est. Sans cœur, c'est une jeune femme qui a la poitrine barrée d'une cicatrice. Elle va fasciner une autre jeune femme qui va s'attacher à elle. C'est un film très sensible, mélancolique, poétique, que je vous recommande particulièrement.
Também.
Será que um dia eu vou sair daqui? Me leva, Tamara.
Tu vai se mudar de vez mesmo, hein?
De vampires, de reptiles, de scolopendres. Et on appelle ça des savants, des marchands. Oui, des marchands qui cherchent à polluer le puits de la vie.
Et enfin, recommandation d'un Blu-ray sorti aux éditions Carlotta. Il y a bien sûr le coffret Jean Eustache qu'on attendait depuis très longtemps qui vient de sortir dans les bacs, mais Carlotta a l'habitude très régulièrement d'éditer des raretés, des incunables comme on dit, et c'est le cas avec ce film L'Inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy, qui raconte comment un savant qui a mis au point un procédé révolutionnaire, l'annulator, qui permet de désamorcer les armes nucléaires, voit son invention être recherchée et disputée par plusieurs groupes de services secrets et de terrorisme. Le film est de 1967, il est à remettre dans le contexte de la guerre froide de l'époque, et aussi de tentatives pour inventer un cinéma d'espionnage et de réalisme fantastique. Alphaville de Godard a été réalisé 2 ans plus tôt, et Docteur Follamour, lui, daté de 64, donc vraiment 1 an avant. Et le film peut être vu aussi donc, comme une parodie de films d'espionnage. James Bond a été lancé quelques années plus tôt, et on commence aussi à voir apparaître des films appartenant à la catégorie Eurospy. À cette époque, des films d'espionnage européens qui plagient ou qui parodient justement les James Bond. Mais L'Inconnu de Chandigore, c'est encore autre chose, c'est un ovni. C'est la volonté de fabriquer un autre cinéma. Premier long-métrage de Jean-Louis Roy, qui appartenait au groupe 5, un groupe de 5 cinéastes suisses dont faisaient notamment partie Michel Souter, Claude Goretta, Alain Tanner, et qui incarnait la nouvelle vague suisse, en écho évidemment à la nouvelle vague française. Freddy Buage disait que le film appartenait aussi bien au fantastique à la frangue qu'au film de ballet, et c'est vrai que c'est très chorégraphié. C'est ballet d'espions dans des décors incroyables, qu'il s'agisse de villas, la villa Bertrand près de Liège, qui sera détruite d'ailleurs peu après le tournage, une attention particulière au lieu, tout est mélangé entre Genève et Barcelone. Le casting est assez passionnant avec Jacques Dufilho, Marie-France Boyer, vu aussi bien dans Week-end à Zuidcoat que dans Le Bonheur d'Agnès Varda, Howard Vernon et bien sûr Daniel Amilfort, sorte de gargouille vivante, une gueule du cinéma des années 60 et 70 qui rendra hommage bien des années plus tard à ce personnage de savant qu'il incarne dans le film, dans La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Enfin, cerise sur le gâteau, L'Inconnu de Chandigore est l'un des films où l'on peut voir Serge Gainsbourg, à la fois acteur et chanteur, puisqu'il joue le chef des chauves, voilà, une des bandes du film, et il interprète Bye Bye Mr. Spy. Et vous pouvez voir la scène sur YouTube dans une scène d'embaumement. On écoute quelques mesures de Bye Bye Mr. Spy.
Bye Bye Mr. Spy. Va-t'en retrouver Argus, prince au sans-regard. Va au pays où se sont tus les silencieux.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine avec Damien Manivelle dont le film Lille sort aussi mercredi prochain. Je voulais remercier Alexandre Dariano pour la réalisation aussi de cette émission et tout de suite le basculement vers Cause Commune. Merci beaucoup.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.